Salut les amis.
Salut Charline.
Bah alors les garçons.
Écoute Charlie, il nous reste que 2 jours pour faire l'émission parfaite.
Bah oui. Aïe, ça veut dire que c'était déjà pas hier.
Hier on était plutôt sur la thématique de l'échec.
Ah carrément.
On n'en a pas fait une de bonne hier.
Toi Charline, on sait même pas encore qui est l'invité.
En France aussi, bien sûr, dans Chef notamment sur TF1 avec Clovis Cornillac.
France 2,
pardon. Oulala, excusez-moi.
Et voilà, pof. Bon, mais ça c'est la fatigue. Il nous faut les vacances.
Ah, mais c'est pas une excuse.
Non, mais si, s'il dit ça, c'est parce qu'il sait que l'erreur suivante, c'est lui, quoi.
Une petite erreur.
Non, on te confie l'interview culturelle. Bim, première question.
Pour les gens qui ne connaissent pas du tout, j'explique qu'au service de la France, c'est OSS 117 pour un télo. Est-ce que j'ai bon? Si Jean-François était là, je pense que t'aurais tout faux. Mais
Ouais, bon, j'avoue, ça partait pas sur des bonnes bases.
Et après, sentant qu'on était fébrile, on a choisi une tête d'espagnol.
Ah, une tête d'espagnol.
Ouais, c'est comme une tête de turc, mais espagnol.
Et on est tous tombés sur Pablo Mira.
À commencer par toi.
L'heure de donner la parole à celui que toutes les radios s'arrachent. C'est Chris Esqui.
Non.
Ah non, pardon, Pablo.
Non,
j'ai juste confondu avec le lancement de celui qui va vous remplacer la saison prochaine.
Ah ouais, mais j'essaie de le piquer pour qu'il se réveille, là, tu vois, qu'il retrouve son niveau.
Ah bah ça, j'avoue, il n'a pas toujours le niveau d'être dans cette belle équipe.
Ouais, Pablo, c'est un peu le Griezmann de France Inter.
C'est ça.
Ouais, mais en même temps, bon, il n'était pas au taquet non plus, bon.
Là, c'est à moi, là vous dire, il va y avoir de la démagogie.
Non, là, c'est Alex Vizorek qui s'est
brève. On a toujours pas pigé l'émission de Pablo, c'est gênant après 3 saisons.
Il n'était pas du tout, du tout.
Donc l'émission d'hier, c'était cata.
Ah oui, mais aujourd'hui, elle sera parfaite.
Hein. Non, mais Charline, on dit ça depuis le 28 août.
Depuis le 28 août 2014.
Ah, ouais. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fait de parfaite depuis 4 ans.
Pas une.
Pas une seule.
Bonjour la France Inter, nous sommes le jeudi 28 juin. Et voilà, déjà exactement 17h09 que nous sommes le jeudi 28 juin.
Ça, c'est vrai.
Voilà. Voici les...
C'est assez émouvant. Oui, c'est vrai.
Je voulais pas me gourer comme ça. Voici les principales informations que nous avons jugées secondaires. Station F, l'incubateur de start-up fondé par Xavier Niel, fête son premier anniversaire. Alors, bonne fête à toutes les start-up. Bonne fête à la Silicon Valley française qui a lancé plein de projets novateurs cette année.
Genre quand tu paumes ton portable, tu l'as perdu, t'appuies sur l'appli et tu retrouves ton portable. Si tu l'as paumé, bah t'appuies sur l'appli.
Une maison d'édition anglaise propose 2 300 € par mois à ses écrivains, un salaire fixe pour qu'ils deviennent écrivains à temps plein et surtout employés.
Comme à Valoir, vous voulez combien ?
60 000 €.
Bon, on verra plus tard pour l'argent.
Le pizzaïolo est bientôt au chômage. L'intelligence humaine a inventé le robot pizza. C'est un bras articulé qui prépare la pâte, la garnie, et lui au moins, il met de l'huile piquante au-dessus. L'objectif est d'ouvrir une centaine de fast-food en France, et si l'idée de ce robot a germé, c'est sans doute sur le terreau d'un échec.
Moi, je voulais faire la Buffalo Mall, tu vois, ni western, ni mall. Mais bon, les banques n'ont pas suivi.
C'est dommage, moi j'aurais bien emmené Alex Vizorek au Buffalo Mall, mais là c'est lui qui m'aurait pas suivi.
On aurait fait une fête. Bonjour, Charlie de Vanhoenacker. Eh bien écoutez, pour l'avant-dernière fois de la saison, j'ai une belle équipe à vous proposer. À 17h20, celui qui j'espère est moins sélectif pour ses relations sexuelles que pour ses goûts musicaux. Sinon, il doit pas s'amuser souvent. C'est Monsieur Chewbacca, bonjour.
Je suis très sélectif et je m'amuse très souvent. On va parler de Chicago aujourd'hui.
De Chicago.
Ouais.
À 17h30, celui qui divise la France en deux, ceux qui pensent qu'ils changent le monde et ceux qui sont susceptibles de répondre à ces questions au micro, c'est vous Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour à tous, dernière chronique de la saison et je pouvais pas vous laisser sans ma rencontre de l'année. Edith, l'esthéticienne, mon amie esthéticienne avec qui j'ai fait un petit bilan de l'année, quoi.
C'est la merde.
Voilà, c'est pointu, c'est pointu.
Et enfin, à 17h40, celle avec qui je vais fêter ma 4e saison d'échec sentimental. Donc, a priori, l'an prochain, je terminerai mon quinquennat de la loose avec Clara Dupont-Mono. Bonjour.
Bonsoir, bonsoir Alex.
Voilà, c'est confirmé. De quoi on va parler ?
Du livre de notre invité, l'histoire d'une jolie délurée.
Mais qui ? Et cette personne.
Eh bien, je me tourne vers celui qui va enjailler l'open space. Vous achevez une série de petits boulots, dont animatrice de Minitel Rose, en devenant écrivain.
Première animatrice de Minitel Rose du monde.
Oh, dites donc, elle est là, elle est belle. Vous écrivez des romans d'inspiration autobiographique, Le Chameau Sauvage, Nefertiti dans un champ de canne à sucre, Le Cosmonaute, ou Vie et mort de la jeune fille blonde dont on va parler, qui sort chez Point. Puis vous entrez dans une veine plus judiciaire avec des affaires oubliées, comme dans Soulac en 2013, qui raconte l'histoire d'un légionnaire mort en tentant de s'échapper de prison par la fenêtre. Vous recevez le prix Femina pour La Serpe. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Je suis Philippe Jaénada.
Oh, oh là 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 là.
Un Jupiter.
Ça, c'est vraiment
Charles
classe.
Vanhoenacker. Alex Vizorek. Sur France Inter.
Bienvenue Philippe Jaénada.
Merci Charline.
Nous sommes heureux de vous accueillir. Première question, vous avez reçu le prix Femina pour La Serpe.
Oui.
Est-ce que vous écrivez en ce moment ou est-ce que ce prix vous a mis une certaine pression et la main tremble?
Incroyable question, c'est pile mon problème en ce moment. C'est pas une histoire de pression, c'est que ça fait 20 ans que j'écris et donc je suis un peu habitué à tout ça, mais j'ai été complètement décontenancé, déconcerté.
Ah oui?
Par le prix Femina et ses conséquences.
Vous trouviez que vous ne le méritiez pas?
Je le méritais, mais je l'ai eu par hasard quand même. Hein. Je vais pas vous raconter ici les coulisses, mais c'est un peu la loterie quand même, le Femina. Et tous les autres prix,
oui,
et le Femina, c'est le prix évidemment le moins truqué, le plus,
bien sûr,
le plus mérité. Mais du coup, il y a plein de sollicitations de tous les côtés, donc je n'écris pas. Charline, je vois votre regard inquiet,
oui.
un peu affolé.
Quand vous dites plein de sollicitations, c'est-à-dire que vous êtes un peu empêché de créer, d'écrire,
oui,
de par les sollicitations qui suivent le prix.
Par exemple, donc le prix Femina, c'était un mercredi, je ne sais plus quelle date, mais un mercredi à 13h, le prix est remis à 13h, donc je reçois le prix, j'embrasse toutes les dames qui m'ont donné le prix Femina. Il y avait une fête le soir, donc je rentre chez moi à 17h, entre 13h et 17h, j'avais 540 mails. C'est beau quand même, 540
mails.
Hein.
Ça a changé.
Et donc j'ai dit oui à tout, dans l'euphorie, comme un bambin. Quoi. J'ai dit oui, d'accord.
Et donc il y avait le nôtre, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui.
Et voilà, exactement. Et que je le regrette amèrement parce que je suis complètement perdu. Je ne sais pas ce que je fais là.
Je vous prête un stylo si vous emmerdez pour l'émission.
En attendant, Philippe Jaénada, on peut relire vos précédents ouvrages, et notamment Vie et mort de la jeune fille blonde, paru chez Point. Quelle place tient ce roman dans votre œuvre, dans tous les romans que vous avez écrits? Il a une place particulière.
Mais c'est incroyable, vous avez un instinct terrible, vous n'avez que des bonnes questions, c'est fou.
On était fait
parce
pour se
rencontrer. Parce que les gars, Vizorek et vous, vous moquez d'elle tout le temps, mais en fait, c'est le roman, mon roman qui a le moins marché. Personne n'aime ce roman, donc moi évidemment, comme quand on a un enfant un peu tordu, c'est celui que je préfère. C'est un roman qui est sorti en 2004, qui n'a pas marché du tout en première édition, qui a été publié en poche, au livre de poche je crois, qui n'a pas marché du tout, et qui là ressort chez Point. Et donc, voilà, c'est mon petit préféré, mais c'est peut-être, ça se trouve, c'est le plus mauvais.
Qu'est-ce que les gens vous reprochaient, alors? Pourquoi il n'a pas marché avec le recul maintenant?
Je ne sais pas, ils ne me le disent pas parce qu'ils ont peur. J'ai une allure d'ours un peu, donc ils ont peur de...
Pourtant, c'est un peu cul, on peut le dire. Hein.
C'est un peu cul, mais après, ça confirme le fait que le succès d'un livre ou de quelque chose, même le succès tout court, échappe vraiment à toute logique. C'est tellement mystérieux de savoir pourquoi tel texte marche et tel autre pas, ou une toile, ou un film. C'est très bizarre. Parce que celui-ci est très réussi.
Moi,
de vous,
beaucoup, ouais. J'en ai beaucoup.
Et puis, pourquoi celui-là marche pas, c'est bizarre.
Clara, vous allez en parler tout à l'heure d'ailleurs de cet ouvrage. Le thème, c'est la crise de la quarantaine, notamment. Macron, il a 40 ans. Il va passer par ce que vous racontez.
C'était mon actu.
Il va faire sa crise à l'Élysée.
Ouais, mais il a pas besoin d'essayer de retrouver son amour de jeunesse.
C'est vrai. Vous êtes assez peu nombreux, les romanciers, à écrire drôle. Est-ce que ça peut nuire ou ralentir la crédibilité littéraire? On vous a embêté là-dessus ou pas? Parce que on vous connaît pour vos digressions, vos parenthèses, et puis pour parce que c'est drôle.
Je ne sais pas, je me rends pas bien compte. Je pense que c'est moins marqué quand même que dans le cinéma. On entendait Poulvord tout à l'heure. Les acteurs sont plus ont plus ça à porter. Dans la littérature, je sais pas. C'est Clara qui va un peu éclairer ça. Mais moi, j'ai pas l'impression. Ça a jamais été un poids ou un handicap. J'ai l'impression.
Vous décidez pas d'écrire drôle. Ça vient tout seul.
Ouais, c'est naturel.
Vous avez commencé par écrire, pas pour le Minitel, mais pour... vous avez écrit des trucs...
j'ai écrit des trucs.
Dans vos petits boulots, vous êtes
rendu
compte que vous aviez une plume marrante.
Si on peut juste deux secondes s'arrêter dessus, Charline, ça voulait dire donc que vous étiez derrière l'écran et que vous répondiez, c'était vous, 3615 Svetlana, c'était vous.
Pas Svetlana, mais d'autres. Sexap, je travaillais sur Sexap. J'imagine que ça veut dire sexapile.
C'est vous.
Ah non. Ah, non. J'avais encore ton doudou et ta tétine quand je faisais ça.
J'ai dansé tout.
Et c'est vous qui répondiez donc.
Oui, je m'appelais. J'étais le premier, vraiment le premier. Hein, c'est-à-dire la première animatrice de Minitel ou de d'internet du monde. C'est quand même incroyable. J'avais deux. Je m'appelais Claire ou Sophie.
Oh là là.
Claire un peu un téno. Et Sophie la chaudasse un peu.
Arrêtez, Philippe, arrêtez. Oh, c'est chaud, c'est incroyable. Philippe Jaenada, je rappelle que Vie est mort de la jeune fille blonde sort chez Point. Et puis la Serpe aussi sortira chez Point le 4 octobre. Là, et puis comme c'est chaud, 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 je propose les Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
La Beach Girl.
Le ré mineur, Charline, le ré mineur.
Non, moi, c'est le mi bémol, Clara.
Quel point incroyable.
C'était les Beach Boys. C'est I Get Around. C'est Chewbacca qui a choisi, qui est là parmi nous.
Ouais, qui est consterné.
Anyway.
Non, moi, je trouve ça super. Ça pue les vacances, soit passées pour vous. Pas vraiment,
on est en plein craquage, comme certains d'entre vous, certainement, qui attendent les vacances. Philippe Jaenada est en notre compagnie, l'écrivain, et pour l'entourer, Alex.
Alors, Chewbacca, comme on l'a dit. Guillaume Meurice, c'est également. On a du lourd parce qu'interview spéciale de l'esthéticienne.
Exclusive même.
Exclusivement
sur France Inter, pardon.
Et Clara Dupont-Mono parlera du livre de notre invité.
Philippe Jaenada, c'est le moment des informations radiophoniques.
Ah, d'accord.
Le journal de presque 17h17.
Ah, 17h17. Un moment de 5h15.
Et on commence par les titres.
Selon Paris Match, Jean-Marie et Marine Le Pen se seraient réconciliés.
Et oui, pour une fois qu'une armistice convient aux Le Pen, ça se fête.
Cyril Hanouna a déclaré « Je rêve d'avoir Brigitte Macron ». Ah, touche pas à mon poste.
Oui, pour une fois, il pourrait y avoir sur le plateau quelqu'un qui a suivi des cours à l'école. Et ça, c'est chic.
Et des brèves ?
Oui, il y aura des brèves. Il y en aura plus que d'habitude parce que c'est les soldes aussi sur les brèves.
Et c'est vrai que depuis hier, les soldes d'été sont ouvertes.
Mais oui, ça reste la vraie occasion de s'acheter une paire de chaussures horribles en 37 alors qu'on fait du 44, mais quand même, il y a eu 35% dessus.
Politique.
Oui, à propos de la vision de la société d'Emmanuel Macron, Jean-Louis Borloo a déclaré...
Je cite, « Il faut faire attention que notre pays ne se retrouve pas dans la situation culinaire désagréable où le gratin se sépare des nouilles. »
Et Nicolas Sarkozy d'ajouter « Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe ».
Une page santé à présent. Les producteurs d'alcool viennent de se lancer dans la prévention de l'alcoolisme.
Et ça c'est beau, il n'y a pas de quoi s'étonner. Le gouvernement s'est bien lancé dans la lutte contre la pauvreté cette année.
Justement, le moral des ménages s'est dégradé au mois de juin.
Bah tu m'étonnes, la Coupe du Monde, ça ne met pas toujours la bonne ambiance dans les ménages.
International, oui. L'acteur américain Ron Perlman a fait une confidence. Lors d'un gala de charité, il s'est uriné sur la main avant d'aller serrer celle de Harvey Weinstein.
C'est chic, c'est chic. Et heureusement qu'il n'a pas fait ça avec Donald Trump. Vu la passion que ce dernier entretient avec les Golden Shower, ça lui aurait peut-être plu.
États-Unis toujours, le Texas a exécuté par injection un meurtrier qui lui voulait être fusillé ou gazé pour des raisons de santé.
Pour des raisons de santé. Mais pourquoi ? Il avait peut-être peur qu'à cause de l'injection, il attrape une petite maladie nosocomiale. Et ça, ça l'aurait emmerdé quand même.
Mexique, tous les policiers d'une ville ont été arrêtés après le meurtre d'un candidat à la mairie.
Eh oui, donc visiblement, ça existe. Des candidats à la mairie où l'on parle espagnol qui sont encore plus détestés que Manuel Valls. Et ses chapeaux.
Une page média.
Oui, ce matin sur France Inter, au journal de 9h, il s'est passé ceci quand Agnès Soubiran a parlé de l'élimination de l'Allemagne.
La presse ce matin, Cyril Sauvageau, se montre très sévère pour la Mannschaft. En 4 jours de garde à vue, ils n'ont pas tous raconté la même version.
Il y a un petit problème, il y a totalement un autre sujet qui est parti. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que quel sujet est parti au lieu de la défaite de l'Allemagne ?
Alors, c'était Sophie Parmentier sur la mise en examen des activistes de l'ultra-droite. Et là, nous verrions Cyril Sauvageau pour une revue de la presse allemande ce matin.
C'est pas de bol, mais c'est rigolo.
Dans ce cas-là, on dit sans transition. Radio toujours, Jean-Michel Apathy va quitter France Info pour retourner sur Europe 1. C'est l'heure des grandes migrations. Europe 1, où il était déjà passé il y a 2 ans.
Oui, parti à la concurrence d'où il venait. Jean-Michel Apathy, c'est le Virginie Calmels de la bande FM.
Jean-Michel, mets-toi un post-it le matin sur la table de nuit pour savoir quand tu te réveilles où tu vas. Hein. C'est un petit conseil. Allez, les brèves.
Deux brèves à Caen. Un homme a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 fermes pour avoir torturé des chats. Et un type comme ça, c'est ce qu'on appelle un chat. Chalopard.
Excellent.
Ça c'est mignon pour les jeunes dans le studio. Hein, ça,
ils prennent des notes.
Alors pour les moins jeunes,
allons en Grande-Bretagne.
Ouais, celle-là, fermez les oreilles parce qu'un homme né sans pénis va, grâce à une greffe, pouvoir avoir son premier rapport sexuel à 44 ans.
Eh bien, c'est pratique.
Eh bien, c'est pratique. Tu m'étonnes, avoir le pénis d'un autre, c'est top parce que si t'es pas très doué, tu peux dire c'est pas de ma faute, c'était pas ma teub.
Voilà, ça c'est pour les jeunes, ça aussi.
Clara
Dumont-Mono est consternée.
Vous n'aimez pas, hein,
ils sont payés pour ça, Philippe. C'est ça l'idée. Que
avec vos impôts.
Moi, non.
Avec vos impôts.
On vous le rappelle. Philippe Jaénada est en notre compagnie. Tiens, vous allez présider le prix Point du meilleur roman en 2019.
Je vais.
Oui, bien sûr. En 2019, le jury est composé de 20 libraires et 40 lecteurs.
Formidable.
Ça fait partie des nombreuses activités qui vous empêchent d'écrire en ce moment.
Oui, je n'arrête pas.
Ah oui, mais bon, il va falloir s'y remettre un moment. Sinon, il y a moyen de créer une start-up. Et voilà. Oui, c'est une spéciale start-up aujourd'hui, les amis, car la Silicon Valley française fête son premier anniversaire. C'est la Station F, vous savez, cet immense incubateur où 1 millier de start-up travaillent dans une ancienne gare de triage, entièrement relookée, dans un esprit de coolitude et d'innovation. C'est à Paris. Voilà, c'est là, c'est le cœur de la Start-up Nation.
C'est dans cet esprit de brain content et de B2B que nous vous invitons au rêve, tout simplement. Grâce au message, j'ai une idée de start-up toutes les minutes. C'est un truc de fou. C'est peut-être ça qu'on appelle avoir l'esprit Cogip.
Aujourd'hui, tout va très vite sur les internets. C'est pourquoi il est primordial d'avoir un discours intelligible à fort potentiel viral. Même si je n'ai rien à dire.
C'est le nouveau message à caractère informatif par Nicolas et Bruno sur Canal+. Donc Station F, l'incubateur fondé par Xavier Niel, qui est paraît-il le plus grand du monde, est inauguré par Emmanuel Macron l'année dernière. Cette ambiance start-up coolitude, avec des poufs, des baby-foot où on a plein d'idées à créer. Vous, quand vous étiez Svetlana sur Minitel...
Sophie
ou Claire. À cet âge-là, ça vous aurait plu, vous pensez, d'aller avec... avec ce vivier de jeunes dans ces conditions.
Non. Même maintenant, je ne comprends rien. J'ai l'impression d'être chez les fous furieux.
Ah oui, c'est vrai.
Je ne comprends rien à cette histoire.
C'est-à-dire que voilà un an qu'on vit officiellement dans la Startup Nation. Est-ce que c'est le symbole du nouveau monde tel que Emmanuel Macron nous l'a promis et sur lequel il mise.
Alex.
Alors moi, par exemple, j'ai un avis qui est celui de Charline. Comme ça, on ne discute pas la journée. Franchement, c'est pas bien. Hein. Mais vous avez le droit d'avoir quelque chose de plus nuancé.
Non, ça peut être très bien.
Parce que moi, j'aimais bien le baby-foot avant, mais j'ai pas osé le dire.
J'ai un avis nuancé sur la question. Il y a des startups qui font des choses très bien. Si c'est des startups qui nous facilitent la vie, qui font dans le social, qui peuvent créer du lien.
Deuxième question, est-ce que les startupeurs sont des nazis?
Mais est-ce que c'est
un univers qui vous intrigue.
Mais pas du tout.
Ah, pas du tout.
Mais non, pas
mais
du
pourtant,
tout.
Mais pourtant, on est en plein dedans.
Et oui, bah c'est pour ça, du ah coup, oui, on est entouré.
Et vous avez un smartphone, peut-être... quand même.
Non, non, j'ai pas de téléphone. Là, ah, j'ai pas de
non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour le joindre, c'est une tannée d'ailleurs.
Ah
mais
ouais.
L'idée, l'idée, ce qui, peut-être, est-ce que... Ce
essayez
qui...
par Minitel, Clara.
J'en ai encore un en plus. Est-ce que ce qui vous gêne pas, c'est l'idée que ce soit ce système-là qui soit codifié? Par exemple, physiquement, ils ont, c'est ce que dit l'article du Parisien, mais ils ont tous un peu la petite barbe de trois jours, on mange dans un grand restaurant qui est celui des fondateurs de Big Mama, il y a des espaces qui s'appellent l'espace chill, c'est l'espace où on se repose, l'espace share pour travailler ensemble, l'espace create pour les créatifs, il y a toute une codification de l'univers comme ça qui devient complètement ridicule. Non, vous trouvez pas?
Si, si, mais moi je me sens à des milliards de kilomètres, et là je me dis, je suis vraiment un vieux schnock, quoi. Mais peut-être il faudrait s'incruster là-dedans, enfin il faudrait peut-être... Enfin, je me ferai remarquer.
Alors,
hein, si
l'espace est ouvert 24 heures. Il spécifie que l'espace est ouvert 24 heures sur 24 pour les start-uppers, ce qui supposons qu'un start-upper peut aller avoir envie de travailler à 3h30 du matin, par exemple.
C'est, ouais. C'est le cas aussi de l'école de Xavier Niel, qui est ouverte 24 heures sur 24. D'ailleurs, il y a des jeunes qui dorment à l'école dans les sacs de couchage au milieu des couloirs.
À Bruxelles, la consultance McKinsey est dans une grande tour et on sait où sont les étages. Les lumières sont toujours allumées pour que tout le monde pense que ça travaille jour et nuit.
C'est l'idée que ça ne s'arrête jamais, quoi.
Exactement.
C'est magique, hein.
Mais moi qui fais pour répondre quand même à votre question, j'ai fait des études potentielles à l'école de commerce pour devenir
potentiel.
Non mais pour devenir justement les mecs qui travaillent à la défense dans ces grandes tours, et je pense que ça doit être un échappatoire formidable de se dire je travaille dans une start-up où il y a des poufs et des baby-foot plutôt que dans la grande tour de la défense. Voilà, moi qui ai vu ces jeunes-là aller vers le milieu du travail, moi j'ai fait comique, hein, donc je suis vraiment un rescapé. donc pour défendre un tout petit peu le
concept de
Philippe
start-up.
Philippe Jayanada, vous avez un côté plus solitaire qui fait que vous, ça ne vous ennuie pas de travailler seul ici. Ce sont des jeunes qui ont peut-être envie d'avoir... L'idée de l'incubateur, c'est l'émulation entre les gens qui se croisent, qui solutionnent les problèmes des uns et des autres, etc. Cette émulation-là,
moi, j'ai besoin du contraire. C'est-à-dire que je suis incapable, sans jouer l'artiste ou je sais pas quoi, mais je suis incapable d'écrire s'il y a quelqu'un assis dans un coin de la pièce, quoi. Par exemple. Donc non, c'est le contraire, mais en même temps, bon, je comprends qu'on ait besoin de se soutenir, de s'élever, de s'encourager, de se pousser les uns les autres, mais pour écrire un livre.
Oui,
c'est ça. Il ne pas qu'il y ait quelqu'un derrière moi qui me dise vas-y, allez, vas-y maintenant.
Philippe, en ce moment, apparemment, oui, quand même.
Allez, Fifi, là
vas-y.
Allez, on sort son stylo de son cul, Fifi.
Non, mais attendez,
excusez-moi.
L'ambiance de la start-up nation, c'est pas ça non plus. On imagine un fouet, avec le mec qui est derrière, avec un fouet. Non,
donc,
c'est pas ça.
Ça fait un peu fantasmer cet incubateur, ça fait à peine un an qu'il existe, donc on attendra de voir un peu les résultats.
Est-ce qu'on n'inviterait pas Xavier Niel pour lui poser des questions?
Non, pas vraiment.
Des start-upers, pourquoi pas, c'est intéressant. En tout cas, le Parisien aujourd'hui en France achève son papier sur ces mots en prenant un témoignage d'un observateur qui regarde tout ça de très près et qui dit « Il y a des coûts faramineux de fonctionnement et certaines inquiétudes sur la solidité du modèle économique, mais les gens sont heureux de travailler ici. »
Oh, la beauté.
La beauté, la belle conclusion. Avant de passer à la musique avec Djoubaka.
Ouais, bon, on y va. Bah, ça va pas être pareil, hein, les amis. Et puis autant se dire tout de suite, vous le savez, hein, j'ai une affection particulière pour les musiciens, les musiciennes de blues. Et sans doute parce que dans l'histoire des musiques populaires, ils sont porteurs en fait d'une sorte de mission, une vraie celle-là. Et grosso bluso, nous vivons sur l'héritage de cette musique qui a été la racine ultime de ce que nous écoutons aujourd'hui, donc du rock, du rap, en passant par la soul, le jazz et même l'électro, puisqu'on a un courant maintenant qui est électro-blues. Alors j'ai le bras long, mais... pas assez de temps pour vous faire un arbre généalogique dont je vais faire court. Alors quand il y a un vieux loup qui remet le couvert, justement, ben moi j'ai mon oreille qui titille. Et quand c'est le grand buddy guy qui ramène sa fraise, ben je pose couteau, fourchette et je l'écoute lentement. Je vais vous raconter un peu son enfance parce que c'est ça qui me plaît en fait au départ. Hein. C'est pas qu'ils soient pauvres, c'est qu'ils ont de l'imagination. Ce gars, donc, n'a pas un rond au fond de ses poches et il construit sa première guitare à 13 ans à partir d'une moustiquaire et d'un bout de bois, l'allongin. Bon, c'est pas terrible, donc son père lui offre...
On ne le conseille pas aux jeunes, par exemple.
Son père lui offre plus tard une deuxième guitare, mais elle n'a que deux cordes. Pas génial non plus, quoi. Et la légende veut qu'à force de jouer tous les soirs sur cette deux cordes, sur le porche de la baraque familiale, en fait, un gus lui offre une vraie gratouille, en récompense des soirées passées à l'écouter. Et ça, c'est joli, et c'est ça que j'aime bien. Et nous sommes en Louisiane, donc juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, Et la ségrégation est encore très très forte. Et dès qu'il le peut, ben Buddy Guy se casse à Chicago, la ville du blues électrique. Et c'est là qu'il va poser ses quilles et entamer, en fait, dès les années 50, une carrière qui n'est pas finie. Ah, il y a un autre truc de plaisant aussi dans le blues, c'est que on rend à César ce qui lui appartient. Il y a une entraide, une sorte de compagnonnage. Mais attention, hein, la concurrence est rude et le combat se livre sur scène, dans un rad, dans un club. Et sa bataille sévère à coups de solo et de rythmique. Il faut imposer sa marque de fabrique et la tenir sans jamais tomber. Et Buddy Guy a fait ce parcours. Et au début, ben, il a été épaulé par Muddy Waters, il a été adoubé par B.B. King. Et en presque 60 ans de carrière, lui, il n'a plus rien à prouver. Hein, c'est un guitariste incroyable, c'est un chanteur qui peut te faire du folk, de la soul, comme ça, avec une énergie soutenue. Et Chicago a été quand même une de ces grandes villes du blues. Et si vous avez l'occasion d'aller là-bas cet été, là, il faut passer à côté. Vous allez derrière la Trump Tower, qui est à Chicago. Vous avez un club en bas, à côté de la flotte, qui s'appelle le Buddy Guy Legend. Et c'est dans ces clubs, en fait, que se fabrise le blues d'aujourd'hui. Et beaucoup d'artistes, en fait, afro-américains, du blues et du jazz, ont investi dans ces clubs. C'est pas leur start-up, mais c'est un point de repli, parce qu'en cas de disette, de concerts, de ventes, cet endroit leur permettait, en fait, de continuer à jouer leur musique, et ils pouvaient le faire sans se soucier du lendemain, et puis surtout c'était un moyen de passer la main, de repérer des gars et de faire perdurer une histoire. Et dans son club, alors lui c'est encore pire, on peut admirer une des plus belles collections de peintures de folk art américain, afro-américain. C'est peintes de misère. Quand Dubuffet était là-bas dans les années 60, il a remarqué tout le monde et il s'est installé là-bas. Et les Buddy Guy leur a consacré un des plus beaux musées au monde. Je crois que c'est une des plus belles collections que j'ai vues. Et le type, bon, il a la classe, ça y est, on a compris. Et il a de la suite dans les idées, parce que c'est quand même un pépé. Et il vient de sortir un nouvel album dont le titre est « The Blues It's Alive and Well ». Donc ça va, il est vivant et tout va bien. Et puis, allez hop, on ramène quelques copains. Il y a deux ou trois légendes qui viennent, dont Keith Richards, Mick Jagger des Stones, Jeff Beck, qui viennent rendre en fait leur dette leur monnaie de leur pièce, quoi, la dette de reconnaissance. Et puis un petit nouveau, parce qu'il en fout toujours un, quoi. Et c'est un gars qui s'appelle James Beck, un guitariste folk anglais qu'on n'imaginait pas sur ce disque. Alors le Papy Guy fait des solos d'une minute, hein, rien n'est formaté, c'est beau comme la lune, ça sent bon et c'est pas frelaté. Et voici une version de Nine Below Zero.
Nine Below Zero, Buddy Guy, c'est ça?
Ouais.
Ça claque tellement plus quand c'est avec votre belle voix, Chewbacca. Ben, dites-le, dites-le.
Alors, c'est Nine Below Zero et c'est un classique de Sonny Boy Williamson repris par Buddy Guy.
C'est plus beau quand vous le dites. Merci Chewbacca.
C'était les forbans avec Flip Flap.
Oh, c'est beau. Oh, si, ça marche.
J'ai tenté le coup.
Oh, et la voix de Philippe Jaenada aussi.
C'est vrai.
Dites un peu Flip Flap pour désannoncer un disque.
Eh bien, c'était les forbans avec Flip Flap.
Il y a des voix de radio. Il y a des voix de radio. 17h37 sur France Inter par Jupiter en compagnie de Philippe Jaenada. On a entendu Chewbacca, bien sûr. Alex est là. Guillaume, et on va entendre tout à l'heure Clara Dupont-Mono pour la sortie chez Point de Vie et Mort de la jeune fille blonde. Et en attendant, Guillaume Meurice.
Allez, dernière chronique de la saison. Et quelle saison, mes amis, il s'en est passé des choses. On a perdu Serge Dassault et Mathieu Gallet, hein, c'est pas facile en un an. On a gagné Laurent Wauquiez et Guy Lagache, c'est pas facile non plus. Alors, comme tout va très très vite, je propose qu'on se pose un petit peu, qu'on prenne le temps avec quelqu'un de modéré. Et qui de mieux qu'Edith, mon esthéticienne préférée, métro Passy, hein, si vous passez par Paris, je lui fais un petit peu de pub, elle vous fait le ticket de métro ou le pass Navigo moins cher que Valérie Pécresse. Alors on va me dire, oui, mais Edith, est-ce qu'on est sûr qu'elle est légitime pour donner son avis? Est-ce qu'elle a le bagage culturel et intellectuel? Alors déjà, je vous rappelle que Christophe Barbier donne son avis tous les jours, donc à partir de là, ça met le seuil de légitimité assez bas. Et puis Edith, je veux dire, oui, elle est qualifiée, et c'est pas elle qui le dit, ce sont ses clientes.
Toutes mes clientes qui sont intelligentes, qui ont fait des hautes études, elles disent, dites, vous êtes une intelligence, comme elle me dit, mes clientes, vous avez une intelligence, vous êtes pleine de bon sens. Voilà, vous êtes pleine de bon sens, j'ai des gens qui ont fait Normal Sup, j'en ai plein ici, hein.
Les gens qui ont fait Normal Sup vous disent que vous êtes intelligent.
Mais est-ce que je suis intelligente, que je suis comme les paysans, que j'ai du bon sens.
Voilà, donc on est bon, hein, le bon sens paysan. Alors on est plus sur une laboureuse que sur de la bouture de précision, hein, je tiens à le préciser. Mais on peut être tranquille pour le bilan détaillé de l'année. Alors on va évacuer tout de suite le sujet sensible pour Edith. Johnny.
Ah oui.
Ouais. Ah parce que ça, elle peut en parler des heures, donc on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'elle pense de Laetitia?
Bah, c'est une salope qui fait du cinéma. C'est une salope et qui a aucun respect pour Johnny. Elle lui a pris son fric. Hein. Casse-toi la salope, la vénale. Hein. Écoute bien, elle a vendu toutes les motos de Johnny, ça c'est dégueulasse.
Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, attends, Johnny, il est assez peu dispo pour faire de la moto en ce moment, donc la balade en Harley, faut oublier. Et puis ça va pas s'arranger. Alors, je voulais pas provoquer parce que bon, je vous l'ai dit, c'est le sujet sensible quoi.
Ils vendent plein de choses et que la messe, on fait pas payer 5 euros. La messe, ils donnaient des tickets, il fallait payer 5 euros. Ils font du fric sur le cul de Johnny.
Voilà, bon, alors ils font du fric sur le cul de Johnny, voilà. Alors en même temps, au niveau pognon, Johnny, on va pas revenir dessus non plus, mais il a quand même défiscalisé son cadavre à Saint-Barth. Ça va un peu loin dans le game de l'exil fiscal. D'ailleurs, puisqu'on parle de migration, bon, bah voilà, demandons un vrai sujet à Edith, les migrants.
On a vu sur Facebook, ils ont fait une vidéo, ils cassent tout. Les migrants, ils les nourrissent, ils les sauvent des bateaux, et maintenant ils vont tout casser dans une ville, mais t'as pas vu la vidéo, ils hurlent, ils renversent les gens, ils cassent toutes les fleurs, ah ben ça il y a une vidéo sur Facebook, hein.
Mais sur la vidéo, est-ce qu'on est sûr que c'était des migrants?
Ah ben ça c'est sûr, ah ben c'est des blagues, on va se reconnaître les blagues quand même, hein.
Rapport à la couleur de peau, évidemment. C'est vrai qu'Edith, elle a le coup d'œil. C'est vrai qu'elle pourrait être profileuse. Hein. Dès qu'elle voit un black, bim, elle dit c'est un black. Ok, bien joué, pas besoin de papier. Alors, comme c'est vrai que parfois l'idéologie peut influencer notre perception de la réalité, j'ai quand même dans le doute posé la question.
Mais vous, Edith, est-ce que vous êtes raciste?
Bah, un petit peu, hein.
Ah, quand même,
ouais. Oui, mais moi, attends, mais moi je suis franche. Avant, moins qu'avant, hein. Parce que j'ai des copines, j'ai une copine black.
Moins raciste qu'avant.
Oui, parce que j'ai une copine, elle est black, elle est bien.
Donc il y a une chance que vous soyez plus raciste du tout dans quelques temps.
Bah ça dépend, mais si je vois que les migrants, les blacks et les roms, dans les roms, je peux pas les supporter.
Non, bah c'est pas gagné. Non, le prix Nobel de la paix vient de s'éloigner un petit peu, j'ai l'impression, Edith. Même Manuel Valls, il a plus de chance. Alors voyons, peut-être pour le prix Abbé Pierre. Edith, qu'est-ce qu'elle pense des SDF?
Les SDF, ils foutent rien, ils nous coûtent très cher. Va travailler pour le picoler. Moi, je les vois avec des bouteilles de vodka, ils fument, avec l'argent, ils vont faire la queue pour prendre le RSA. Ou le RSI. Ceux-là, ils sont nuisibles pour la France, je suis désolé. C'est des nuisibles.
Est-ce qu'il faut pas les aider?
Non, moi j'aime pas les gens qui travaillent pas, qui sont poivreaux, qui sont alcooliques, ils ont qu'à bosser.
Oui, c'est le bon sens, hein, on l'a dit, hein, c'est vrai. Alors le truc qui m'a étonné, c'est que Edith, moi je pensais qu'elle était chrétienne. Donc elle me l'a dit souvent pour la charité, tout ça. Alors c'est vrai, elle est chrétienne, mais c'est un poil plus compliqué que ça.
Moi j'ai été baptisée, je suis chrétienne normalement, je pratique pas. Maintenant je suis bouddhiste, que j'en ai ras-le-bol, ils sont hypocrites. Il paraît que c'est
non, vous êtes bouddhiste.
Japonais. Avec mes copines, on pratique.
Ça sent que vous êtes apaisée, Edith.
C'est une philosophie de la vie, tu parles apaisée.
Non, elle est pas apaisée.
est basse. Mais si elle faisait pas de bouddhisme, ça serait pire que ça, je vous le rappelle. Hein. Moi, je la verrais bien en couple avec Alain Finkielkraut. Ah, là, je suis pas dans l'idée, dans l'énergie, ça marcherait. Mais c'est sans compter les contradictions d'Edith, parce que Edith, ce qu'elle veut, après tout, c'est simplement la paix.
Tous ceux qui veulent faire la paix, ils les tuent. Hein, ils les tuent. Parce que ça rapporte aux marchands d'armes, on est bien d'accord. Et regarde même le black, comment il s'appelait, qui avait fait son discours, qui doit assassiner.
Martin Luther King.
Martin Luther King, il était bien. On l'a assassiné. Comment il s'appelle l'Indien.
Gandhi.
Ouais, on l'a assassiné. Et ben je trouve que c'est pas normal.
Ah ben voilà, ben c'est pas normal, mais est-ce que c'est normal d'aimer Martin Luther King et de se dire raciste, d'aimer Gandhi et de dégueuler sur les SDF? Voilà, ben je dirais c'est le fameux en même temps très macroniste, voilà, celui qui fait des beaux discours et en même temps laisse crever des gens dans la rue, dans la Méditerranée à leur travail, qui disrupte le foutage de gueule. Alors je propose qu'à la rentrée, on continue à jouer les bouffons du roi face au roi des bouffons.
Oui, merci Guillaume Meurice et on embrasse Edith,
bien sûr.
Superstar en cette émission, mais oui. Merci aussi à Mario Lollet à la réalisation, Vincent Godard à la technique, Guillaume Meurice. Vous dites c'est votre dernière chronique de l'année. On vous retrouve bien sûr à la rentrée, mais on vous retrouve demain surtout, car notre émission en public, vous allez nous offrir en exclusivité deux titres de votre groupe Les Disruptives.
Ah oui.
Du rock, Les Disruptives.
Non, on vous en avait pas parlé parce que c'est un truc qu'on gère entre nous.
En général, quand c'est musique, on vous parle pas de ça.
C'est du rock en marche, deux titres en exclusivité demain. Soyez là. En attendant, nous sommes en compagnie de Philippe Jaénada, l'écrivain. Clara Dupont-Monod va nous parler du dernier ouvrage qui sort chez Point. Et en attendant, parlons de cet éditeur anglais qui propose de rémunérer ses auteurs comme des employés, avec un salaire brut mensuel de 2 300 €. Il estime que la régularité, c'est la clé pour améliorer les capacités de l'auteur. Et son ambition à cet éditeur, c'est de construire une écurie de romanciers à succès.
Toi, tu fous rien, t'as jamais rien foutu de ta vie.
Moi ?
Tu crois que tu fais quoi, toi, avec tes histoires d'amour à la con ? Tu fais rêver les minettes dans les RER qui lisent leurs petites bullettes, là. Ils s'embrassèrent dans le coucher du soleil.
N'importe quoi.
Non, mais et tu les fais rêver à quoi ? À de la merde en bar. Tu veux que je te dise un truc, Xavier ? Ce que tu fais, c'est naze. Tout ce que t'écris depuis 2 ans, c'est naze.
Audrey Tautou dans Les Poupées Russes, le film de Cédric Clapiche. C'est un article du Guardian qui est relayé par le site spécialisé dans la littérature qui s'appelle Actualit-T. L-I-2-T. Alors voilà le problème posé. C'est une conception assez originale de vouloir choisir pour l'instant 5 à 10 auteurs, mais son ambition c'est d'en avoir une centaine. Et de les rémunérer, 2 300 € brut par mois, voilà la logique.
Il y a une prime de succès ?
Ça n'est pas précisé. Non, parce que l'idée, c'est qu'ils s'en foutent plein les poches, l'éditeur, j'imagine. Ça vous paraît une bonne idée de départ ou une aberration totale, Philippe Jaénada ?
Pire qu'une aberration. C'est constant. Enfin, il fait ce qu'il veut, s'il y a des gars qui veulent bien travailler pour... Non, c'est n'importe quoi.
Le salaire qui vous choque, c'est la hauteur du salaire ou c'est la régularité ? Est-ce que c'est le montant qui vous choque ?
Non, c'est pas le montant, bien sûr, ça pourrait être 100 000, ce serait pire.
D'accord, c'est ma question.
Le truc le plus intéressant dans la littérature, c'est qu'on écrit ce qu'on veut et qu'on fait ce qu'on veut. Et que... Moi, je me disais, il n'y a pas longtemps, c'est le seul truc dans ma vie où je suis libre, entièrement libre. Mm-hmm. C'est-à-dire que même là, dans cette émission de dingo, quoi, si je veux me mettre tout nu et monter sur la table...
Ah ben non, allez-y, vous rigolez.
Il y a des caméras partout, ça va faire un scandale.
Nous, ça ne nous dérange pas.
Il y en a qui l'ont fait, hein.
C'est vrai ?
Oui, Hippolyte Girardot, qu'on salue.
Non, vous avez vu Hippolyte Girardot nu sur la table.
C'est déshabillé, il était en slip, il a fini en slip.
Il y a quelques années, ça va, mais Hippolyte, maintenant, il a quand même...
Non, il est bien.
Il a beau reste, attention.
Alors, je vais vous donner un indice sur les intentions. Il s'appelle Jonathan de Montfort. Ce sont les éditions de Montfort en Angleterre. Et avant de devenir éditeur, il gérait un fonds spéculatif et travaillait dans la banque Goldman Sachs. Ça vous donne un autre éclairage ?
Oui, c'est moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a toujours des gens pour penser que l'art obéit à la logique de retour sur investissement. Or, ça ne marche pas comme ça, l'art. Alors, c'est peut-être son drame, mais c'est aussi sa grandeur quand même. Mais Van Gogh, il a vendu une seule toile de son vivant. Edgar Allan Poe, il a rien vendu.
Viserait qu'il a personne à ses spectacles.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on devait réagir comme une vente de hamburger, c'est n'avoir rien compris en réalité.
Non, puis surtout, non seulement ça, puis surtout après, ça se transforme en employeur, en employé, quoi. Mm-hmm. Moi, j'ai des jeunes auteurs qui m'écrivent. Je suis maintenant un vieux Yoda, il s'appelle dans le...
Maître Yoda.
Maître Yoda, voilà. Et qui considèrent que leur éditeur est leur employeur. C'est-à-dire, si l'éditeur dit « Non, ce chapitre est pas bien », ils disent « Merde, je suis coincé, je suis obligé de... » Alors que non, c'est plutôt comme un couple. Oui. Si ma femme me dit si tu mets pas un pantalon rouge demain, je te quitte. Je te vire, quoi. C'est, ça marche pas.
Oui.
Et un employeur, un
éditeur. Il faut pouvoir changer d'éditeur. Ouais. Aussi.
Alors que là, s'ils sont salariés, ben, forcément, ils doivent obéir à ce
ils
que,
sont
à
pieds et poings liés, effectivement. Et là, sa logique va beaucoup plus loin et il explique que pour sélectionner les auteurs qu'il va rémunérer, il va les faire passer par des tests psychométriques suivant un algorithme qui définira si les personnes sont adaptées à la vie d'écrivain. Parce que s'il mise sur ces types, il veut absolument qu'ils ouais. soient. Alors, une dernière question sur ce sujet. Est-ce que se sentir en sécurité financière, ça aide à écrire ?
Non.
Est-ce qu'on peut même pas imaginer que cette logique, elle permette de se dire, il y a un, plus qu'un minimum qui est là, c'est, enfin, voilà, et donc ça permet d'être à l'aise et de pouvoir ne faire que ça, et non, pas faire des jobs à côté.
Parce qu'on doit quelque chose à quelqu'un, tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut, on est obligé de plaire à son éditeur, alors que sinon, on s'en fout. Et puis il y a ça un peu en France ou partout, hein, les avaloirs, c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on nous donne de l'argent et puis on a...
Avant l'écriture, c'est avant ça l'écriture, on vous donne une somme
oui, c'est une,
qu'il faudra
une
rembourser
de... Donc, faut pas rembourser, mais
en théorie.
Moi, j'ai jamais remboursé un avaloir.
Parce que les éditeurs sont gentils, ouais. mais en théorie, c'est pas un salaire. Mais c'est même pas un salaire,
non,
les avaloirs. Voilà, c'est ça,
c'est une avance.
Une avance. Mais juste rappeler peut-être qu'on écrit un livre parce qu'on peut pas faire autrement. On peut écrire parce qu'on a besoin de payer son loyer, ça oui. Mais on écrit d'abord parce qu'on peut pas ne pas le faire. Et c'est pas Philippe Jaénada qui va dire le contraire.
Ah, c'est pas moi qui vais dire le contraire.
Vous qui avez commencé en restant enfermé chez vous.
Oui, qui fait toujours pareil. Oui. Et puis moi, non, mais c'est vrai. En plus, hein, moi, je me dis là, par exemple, mon dernier livre, La Serpe, là, ça a bien marché, vraiment bien marché. Je travaille à Voici depuis plus de 20 ans. Les gens me disent, mais arrête Voici, t'es con, arrête Voici. Maintenant, c'est bon, t'as du fric et tout ça. Sauf que ça se trouve, le prochain livre, c'est 2000 exemplaires, c'est-à-dire 4000 euros pour 2 ans de travail, c'est mou, quoi, c'est moyen. Donc je peux plus payer mon crédit, j'ai un enfant, machin. Et ça voudrait dire que si j'ai pas un truc à côté, je suis obligé d'écrire des livres en me disant, il faut que ça se vende, sinon c'est mort pour la part.
Balzac était comme ça. Il avait besoin d'écrire parce qu'il avait pris des dettes et tout ça, et il a quand même fait une œuvre. Ah, c'est indiscutable.
Il y a un truc moyen.
Ça
tire à la ligne un peu quand même.
Clara Dupont-Monod, vous avez relu Vie et mort de la jeune fille blonde de Philippe Jaénada qui vient de paraître chez Point. Voilà, alors pour ceux qui en douteraient, ce n'est pas un livre sur Charline, hein, qui est une jeune fille blonde. Et j'ai envie de dire, heureusement parce que cette jeune fille blonde que vous mettez en scène, Philippe Jaénada, elle fornique comme on respire.
Charline, non.
Non, justement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais votre héroïne, la jeune fille blonde dans le livre, elle fornique comme on respire. J'ajoute qu'elle a tout juste 13 ans. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle copule avec une innocence assez désarmante. Elle propose avec beaucoup de gentillesse des positions qui feraient rougir YouPorn. Je cite, « Elle jouait à la femme objet comme les fillettes jouent à la marchande. » Alors celui qui fait ce commentaire, celui qui parle dans le livre, c'est le garçon, le narrateur. Bon, c'est le garçon qui se trouve sous la fille en question, ou plutôt qui se trouvait, puisque c'est ce garçon devenu adulte qui raconte l'histoire. Et il se souvient donc de cet épisode de sa vie. Il était puceau, et après la jeune fille blonde, il n'était plus du tout. Je sais, ça fait rêver, mais je vous console, Vizorek.
J'espère que ça m'arrivera.
Voilà, non, je vous console. Attendez, parce que ce n'est pas parce que ce garçon a perdu son pucelage qu'il est pour autant devenu heureux. Quand le livre s'ouvre, on voit ce vieil enfant, ce grand enfant, qui traîne sa mélancolie dans les bars de Paris. Et tout comme on peut coucher par désœuvrement, ce qui est sans doute arrivé à la jeune fille blonde et à nous toutes un petit peu quand même, on peut aussi dîner chez des amis par désœuvrement. C'est ce que fait le narrateur. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi faire de la soirée, le temps s'étire comme un prêche vegan de Guillaume Meurice, et donc il se rend chez un couple d'amis assez foutraques qui organise de drôles de dîners, avec un concours de baf par exemple, et beaucoup d'alcool. Et c'est au cours de ce dîner que Paul, le monsieur qui reçoit, dit à voix haute son chagrin d'avoir sa fille unique, devenu obsédé sexuel, drogué et inaccessible. Et à l'évocation de la fille de son ami, le narrateur tique parce qu'il se dit « Bon sang, mais la jeune fille blonde, quand j'étais ado, la délurée avec qui j'ai perdu ma virginité, c'était sans doute la fille de mon copain et visiblement, elle a mal tourné. » Et il se met en tête de retrouver cette fille. Il prend discrètement des infos, il repère la ville où elle se terre et il a un objectif, se tenir face à elle. Et quoi d'ailleurs ? Lui dire quoi ? Lui dire « Bonjour, je suis le gars que vous avez grignoté jusqu'à la moelle lorsque vous aviez 13 ans parmi les hautes herbes du Sud-Ouest »
En gros, c'est ça quand même. Il sait pas trop ce qu'il va lui dire, mais il y va quand même. Et c'est là où on se rend compte que, je trouve, qu'une bonne partie de votre travail, Philippe Jaénada, tourne autour de la mémoire. Alors ça se voit pas tout de suite, parce que vous avez un talent rare qui est celui d'écrire drôle. Et ici, je ne vous le cache pas, c'est un talent que nous apprécions. Mais vous êtes l'as des digressions, vous êtes le sultan des parenthèses dans la parenthèse, vous êtes le cador de la saillie verbale. Non mais, et ça marche, ça marche. Mais toute cette drôlerie masque quand même une obsession que vous avez pour la mémoire, comme si votre ennemi personnel, c'était l'oubli. Votre dernier roman, vous en avez parlé tout à l'heure, La Serpe, qui a eu le prix Fémina, raconte un personnage que la postérité a écarté. Votre premier roman, qui s'appelait Le Chameau Sauvage, racontait la recherche d'une femme en forme d'oubli, qui était à peine aperçue et évaporée, je cite, « comme une bulle de savon ». Et entre ces deux livres, il y en a eu beaucoup d'autres, qui parlent de Bruno Sulac, de Pauline Dubuisson, des fantômes. Écrire pour vous, c'est se souvenir, ça d'accord, mais c'est quand même une façon assez particulière de rendre justice. Comme si la littérature voulait restituer l'honneur, recoudre une image. Dont acte avec cette jeune fille blonde, ressuscitée dans le marbre d'une bulle de savon, en quelque sorte. Je vous redonne les références. « Vie et mort de la jeune fille blonde » de Philippe Jaénada est paru chez Point.
Et La Serpe ainsi que Le Chameau Sauvage seront disponibles chez Point à l'automne. Philippe Jaénada, vous êtes d'accord avec Clara Dupont-Mono
au début, sur la mémoire? Clara, quand je vous ai écouté, j'ai préparé des trucs un peu drôles à dire et tout. Puis à la fin, là, vous m'avez complètement cloué.
Elle vous a séché.
Ouais, séché. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est le seul truc qui m'intéresse, c'est ça. C'est la disparition des... Enfin, le temps qui passe. Bref, c'est original. Hein,
ah oui, elle n'est pas mauvaise finalement, ouais, en fait, Clara Dupont-Mono. Merci beaucoup, Clara. Vous me donnez envie de relire les ouvrages de Philippe Jaénada. On va aborder ce dernier sujet sur le robot pizzaïolo qui prépare une pizza toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes. Voilà, qui permet à deux Français d'ouvrir un fast-food de pizza en remplaçant l'humain par la machine. Leurs arguments, outre la rapidité et la productivité, bien sûr, ce sont les bonnes conditions d'hygiène, car le robot s'auto-nettoie toutes les deux heures. Une fabrication de pizza 24 heures sur 24 et un prix attractif. Quand on a rêvé du futur, c'était pas exactement comme ça qu'on l'avait imaginé.
Pizza!
Ah, tu n'as qu'à attendre ton tour.
Mamie, dès que c'est prêt, tu m'en fourres un morceau dans la bouche.
Arrête de faire ton intéressant.
Oh, super, quelle atrocité.
Hydratation 4, s'il vous plaît.
C'est prêt?
Et voilà!
Et un chef, maman. Personne n'hydrate une pizza comme toi.
Retour vers le futur, le film de Robert Zemeckis. Ah. Eh oui, il l'avait imaginé. C'est un article paru dans La Croix, daté de mercredi. Ça y est, ça arrive, ce sont deux Français. C'est du Made in France, c'est de la start-up. C'est le robot pizza. Vous êtes prêt à tenter l'expérience, vous, Philippe Jaénada, ou vous boycottez d'emblée? Est-ce qu'il y a une curiosité ou un boycott?
Je suis tout à fait prêt à tenter l'expérience. Ah oui, c'est vrai. Les pizzas, c'est vachement intéressant. En fait, là, je suis en train de me dire, en vous écoutant, c'est le truc vraiment symbolique. Il n'y a rien de plus appétissant. Les pizzas, je vais pas citer les marques, mais des trucs qu'on livre. Il n'y a rien de plus appétissant. Et en même temps, il n'y a rien de plus décevant à chaque fois. Quand on les mange, on se dit toujours, oh, c'est fini et tout. Mais trois jours après, on dit, oh, ce fromage là, c'est trop de fromage. Et donc, je me dis que la différence entre l'appétissant et le décevant, ça doit être l'être humain. Peut-être que le robot peut, peut-être.
C'est malin, ça. Mais
essayer,
évidemment.
Ouais, peut-être. Voilà. L'être humain est décevant, souvent.
On va passer au sketch, Clara, à moins que vous vouliez conclure.
Oh non,
sur
c'est toujours meilleur la cuisine quand c'est fait par des vraies mains, avec un vrai corps et un vrai
parce
cerveau.
Parce que le pizzaïolo, il lance la pâte. Je suis pas sûre que le robot, il lance la pâte. Et mais là, d'après La Croix, le robot, c'est un bras articulé, met l'huile piquante à la fin avant
c'est
de fermer la boîte.
C'est, quand même.
C'est peut-être un humain qui livre, hein, c'est-à-dire un esclave à vélo de Liveroo, bien
l'instant.
Sûr. Ah, j'avais envie de le dire avant la fin de l'année. Nous avons un sketch pour Philippe Jaénada.
Philippe Jaénada, vous avez évidemment droit à un sketch en fin d'émission. Vous êtes Jean-Luc Mélenchon, ouais. Si c'est pas un coup de bol,
qu'est-ce
ça.
Que je vais faire?
Alors vous allez lire
je
les dialogues. D'abord, je dois expliquer parce que hier, pendant le match Corée-Allemagne, Jean-Luc Mélenchon a tweeté joie pure, la Mannschaft est éliminée, trop fort les Coréens. On ne sait pas pourquoi il se passionne pour le foot parce qu'il y a quelques années, il en disait beaucoup de mal. Alors on va voir comment il a regardé ce match avec Raquel Garrido et Alexis Corbière, que sont Charline et Guillaume. C'était hier.
Quoi, les chelous ont marqué?
Non, Jean-Luc, les rouges!
Les rouges magnifiques, l'URSS!
Ah, Jean-Luc, la Corée du Sud!
Évidemment, évidemment, je disais ça pour voir si vous suiviez.
Ça fait 1-0 pour les Tigres d'Asie.
Ah bon, il joue avec des tigres.
Oh merde, Jean-Luc, fais un effort, là. Je te rappelle que t'es devenu un expert du foot depuis un mois.
Oh, chiotte les casques à pointe.
Voilà, la
merde, les boches ont égalisé.
Ah non, mais tu le fais exprès, Jean-Luc.
Quoi, c'est pas un vrai boche, c'est un hologramme.
2-0 pour la Corée du Sud.
Génial. Dans le cul, la Merkel.
Ah, pas la choucroute.
Vive les nouilles et le bim, bim, bap.
Je croyais que tu t'étais mis au quinoa.
Je me mettrai au quinoa quand le Pérou foutra 15-0 au toton.
Ah, 15-0 au foot, c'est quand même pas fréquent, hein, Jean-Luc.
Évidemment, évidemment, je disais ça pour voir si vous suiviez.
Mais je ne comprends pas pourquoi l'Allemagne, elle joue en 4-4-2.
Les 4-4, qu'ils soient 1 ou 2, c'est vraiment nul, ça pollue beaucoup trop.
Non, Jean-Luc, le 4-4-2, c'est un système de jeu, bordel.
Bien sûr. Comment ai-je pu vivre sans le foot? Allez, jumping.
Il attend quoi pour siffler l'arbitre?
Mais oui, si ça continue, les Fritz vont finir par marquer un essai.
Non, tu confonds avec le rugby, Jean-Luc.
T'es sûr de toi?
Jean-Luc, c'est important le foot pour ton électorat, hein?
Vous êtes certain?
Mais oui, les pauvres, ils aiment le foot.
À ce point-là?
Mais bien sûr, c'est leur seule chance de regarder des riches travailler.
Et puis t'es Marseillais maintenant, faut que t'ailles au Vélodrome, hein.
Ah ça non, le foot, ça va, mais je refuse de m'intéresser au vélo.
Mais non, mais le Vélodrome, c'est le stade de foot de Marseille.
Ah bon?
Mais Jean-Luc, Marseille, c'est une ville de foot, tu le sais ça au moins?
Évidemment, évidemment, je disais ça pour voir si vous suiviez.
Ah, quand même, ouais.
Je vais déjà prendre mes places pour Marseille. Pour Marseille, Corée du Sud, je vais prendre mes places.
Philippe Jaénada, merci beaucoup. Dites-moi, Philippe Jaénada, vous qui écrivez de façon si vive et drôle, etc., l'oralité, ça vous tente?
Bah oui, mais c'est plus dur. Je préfère écrire... Là, c'était dur quand même.
Se prête, votre écriture se prête à l'oralité. Philippe Jaénada, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. On était ravis. Je rappelle que Vie et mort de la jeune fille blonde, paru chez Point, est tout à fait disponible dès maintenant. Et que La Serpe, qui a reçu le prix Fémina, et puis Le Chameau Sauvage, parmi vos premiers romans, seront publiés toujours chez Point à la rentrée, à l'automne plutôt.
C'était un plaisir d'être là.
Merci,
nous
plaisir
aussi,
partagé.
Vous êtes le dernier invité de la saison.
Avec les auditeurs. Oui, car demain, émission spéciale en public.
Est-ce que je peux lancer le son de fin?
Ouais, allez-y.
Ouais. On se retrouve demain pour la dernière de la saison. Et il est vraiment temps que ça se termine, car là, Charline déraille, même quand on enregistre le débrief vers 15h.
Moi, je veux mourir en studio, sous le projecteur, derrière le micro.
Pas de salaud.